Commençons. Comme j'ai fait dans ma session ce matin, je vais vous donner une opportunité aussi, si vous voulez demander des questions ou des commentaires, sentez-vous bien à l'aise de faire. Je veux vous donner une petite perspective différente, je pense que je sais ce que je vais faire, sur les finances et qu'est-ce que nous devons penser à propos de l'argent. Si vous m'auriez dit, même seulement il y a 10 ans, que je serais ici sur l'estrade de parler à propos des finances d'une perspective biblique, j'aurais dit non, non, je pense pas. Parce que quand je me tenais publiquement pour parler pour quelque chose, certainement ça venait de les Écritures la plupart du temps, mais si je parlais de l'argent, c'était à propos de l'argent. Et c'était séparé de ce que la Bible avait à dire à propos de l'argent. Dans les derniers 3 ou 4 ans, et je suppose que vous étiez dans mon autre session, quand j'ai passé à travers des étapes de ma vie, je pense que ce que Dieu a fait dans ma vie m'a forcé à être impliquée dans quelque chose que sinon je n'aurais jamais été impliquée dedans, car je n'aspirais pas d'être un planificateur financier et de parler aux gens ou à des REER et peu importe. Quand j'ai commencé dans l'assurance vie, je savais même pas c'était quoi un REER. Donc, mais le Seigneur, à travers des circonstances, m'a dirigé vers ça. Et c'est pour ça que je suis capable de parler de ça. Et ensuite, j'ai commencé à être vraiment mis au défi dans mon cœur, dans mon esprit. Qu'est-ce que la Bible a là à dire à propos de l'argent? Et il y avait vraiment beaucoup de choses à dire à propos de l'argent. Donc, j'ai 3 points aujourd'hui. C'était important à ce moment-là. C'est important aujourd'hui. Et c'est important à jamais. Et ça, je parle de l'argent, parce que c'est vrai. L'argent est important. Et ce qu'on fait avec notre argent, c'est vraiment important. Et c'est important, et moi, je crois que c'est un message qui manque ou qui n'est pas assez exposé dans les cercles d'Église. On devrait en parler plus. Et la raison pourquoi je pense ça, c'est parce que Jésus en a parlé beaucoup. Et ce qui est intéressant, pourquoi il ferait ça? Il y a 2 fois plus de versets à propos de l'argent dans la Bible qu'il y a à propos de la foi et de la prière, combinés. Maintenant, souvent, on entend des messages à propos de la prière. On entend souvent des messages à propos de la foi. Mais c'est rare qu'on entende des messages de prière, d'argent. Mais Jésus a parlé beaucoup plus. Il a parlé plus de l'argent que du ciel et de l'enfer. On n'entend pas beaucoup de messages à propos de l'enfer, mais on entend des messages de temps en temps du ciel. Mais il faut qu'on parle plus des finances, parce que les finances, c'est quelque chose qu'on doit voir régulièrement. 16 de 38 paraboles et 1 de chaque 10 versets dans le Nouveau Testament parlent de l'argent et des possessions. C'est pas mal, beaucoup. Donc, ça devrait nous dire que les finances, ce qu'on fait avec notre argent et nos possessions, c'est pas mal important. Voici une cotation, je trouve ça très intéressant. L'argent, c'est un index pour voir le vrai caractère d'un homme. À travers les Écritures, il y a une corrélation entre le développement du caractère d'un homme et comment ce qui manipule son argent. Et j'ai vu entendu quelqu'un dire, toutes les décisions que tu prends à propos des finances, c'est une décision spirituelle. Il faut penser à ça un peu. Ça veut dire que quand tu vas acheter un café au Tim, tu prends une décision spirituelle? OK. On va passer à ça un peu. Mais ce qu'on fait à propos de avec nos sous, c'est très spirituel quand on comprend bien les choses. Je vais vous donner quelques versets. Vous allez lire celui-là et vous allez lire et vous allez. Et j'ai déjà lu ce verset et j'ai déjà pensé, ça n'a pas rapport avec l'argent. Et dans la surface, on dirait que non. Mais quand je lis ça un petit peu, je lis un peu plus, vous allez voir que oui. Il disait, Donc, à ceux, les foules qui venaient voir Jean-Baptiste disaient, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Et ne vous mettez pas à dire en vous-même. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Maintenant, vous allez dire, c'est quoi le rapport avec l'argent? On dirait qu'il n'y a pas de rapport, n'est-ce pas? Mais ce que je veux que vous voyez, c'est ce qui est en caractère gras prouvé par la façon que vous vivez, que vous avez repenti de vos péchés et tourné vers Dieu. Regardez le résultat de ce message. La foule demande, que devons-nous donc faire? Donc, que devons-nous faire pour prouver que nous avons repenti de nos péchés? La réponse de Jean, c'est que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Donc, sa réponse est en rapport à comment est-ce que tu utilises tes argents ou tes possessions, prouve que tu as repenti. Même les collecteurs d'impôts venaient pour être baptisés et ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire. Et lui dire, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Donc, encore une fois, c'est une réponse directement reliée aux finances. Donc, quand j'ai lu ça, je trouvais ça intéressant de noter que chaque réponse avait un rapport, les finances, même si on n'aurait pas pensé, on dirait que c'est à propos de la repentance. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On demandait des soldats. Et Jean y a dit, ne faites pas des fausses accusations et soyez contentés avec votre paye. Maintenant, être contenté de notre paye parce que nous vivons dans une société où ce qu'on veut toujours plus, n'est-ce pas? On n'a jamais assez. On veut toujours en avoir plus. Et si on a un salaire qui est élevé, on augmente notre standard de vie. J'ai lu un livre une fois qui a dit détermine ton standard de vie comme ça que quand on t'a une hausse de salaire, tu vas pouvoir augmenter tes dons. Mais la Bible dit très clairement la réponse de Jean. Si tu veux prouver que tu es repenti de tes péchés, sois contenté avec ton salaire. Donc, être contenté de ce qu'on reçoit en salaire, c'est un signe ou une preuve que tu as donné ta vie au Seigneur et que tu as repenti. Donc, Jean ne pouvait pas répondre à cette question sans parler à propos qu'ils utilisent leurs sous. Maintenant, Zachée. Et je me souviens quand j'étais jeune dans l'église, je me souviens chanter le chant Zachée, un petit homme, il a grimpé dans l'arbre. Veux-tu venir le chanter? Mais c'est ce que Zachée a dit après qu'il a rencontré Jésus. Il a dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » J'ai jamais remarqué ça avant quand je regarde l'Écriture, mais Jésus répond à Zachée, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Comment est-ce que Jésus pouvait savoir ça? C'était pas nécessairement qu'il venait de repentir de ses péchés. C'est comment ce qu'il a dealé avec ses sous avait été touché. Ne trouvez-vous pas ça intéressant? La façon qu'il utilisait ses sous était la signe à Jésus qu'il avait repenti de ses péchés. Donc, ça veut dire, en étant chrétien, nous devons faire quelque chose de différent avec nos finances que les non-chrétiens. Est-ce que ça a du sens à vous? Mais souvent, je peux regarder l'église ou ce que je vais à l'église et je regarde autour de moi et je vois pas beaucoup de différence à ce, comment les gens dépensent leurs sous dans l'église à comparer de l'extérieur de l'église. C'est très similaire et je pense que souvent, c'est que c'est ce message est manquant dans l'église. Et le message de repentance n'a pas touché le cœur des gens assez pour affecter leur portefeuille. Et c'est nécessaire que ça l'affecte, leur portefeuille. Donc, c'est important à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Dieu, tout est au Seigneur et tout ce qui est sur la terre est au Seigneur. Donc, votre compte de banque, votre arrière et tout ce que vous avez en épargne, c'est à qui? C'est à Dieu. Tout est à Dieu. Et il y a des versets qui parlent de l'argent et on connaît celui à propos que Dieu a tout. Dieu est propriétaire de tout. Donc, ça veut dire que les choses que nous recevons nous viennent du Seigneur. À toi, Seigneur, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Tout vient de lui. Donc, c'est important ce que tu faisais avec ton argent. C'est important maintenant. Il y a seulement 5 choses que tu peux faire avec l'argent. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi? Avant que je vous le dise. Le dépenser. Ça, c'est numéro 1. C'est facile. On peut décider qu'est-ce qu'on va faire avec ce que le Seigneur nous donne. Donc, dépenser, donner, épargner, investir. C'est comme épargner, ça. C'est vrai. C'est vrai. Celui-ci, c'est très similaire, c'est payer nos dettes. Parce que quand tu penses à dépenser, c'est quoi la dette? Une dette, c'est une extension de tes dépenses. C'est, OK, j'ai pas épargné assez pour la maison, donc je vais avoir une hypothèque. J'ai pas mis de côté assez d'argent donc pour cette auto, donc je vais aller chercher un emprunt pour mon auto. Donc, c'est une extension du premier. Celui-ci, c'est quoi ça? Payer les taxes, vous ne l'avez pas dit, celui-là. On est en déni, oui. L'épargner ou le donner. Maintenant, à part de payer les dettes, et j'ai voulu le mettre au centre parce que généralement, c'est fait automatiquement pour nous quand on travaille. Les taxes sont enlevées de notre paye, n'est-ce pas? Quand on va acheter un item, les taxes sont payées sur les items. Alors qu'on fait les achats automatiquement, donc c'est prise de nous au lieu que nous qu'on le donne volontairement au gouvernement. Et même, on a hâte au temps des taxes pour les gens qui vont retourner, vont recevoir un chèque du gouvernement, sinon on n'a pas hâte à ce temps de l'année où ce qu'on va peut-être devoir de l'argent. Donc, le dépenser, payer nos dettes, payer les taxes. S'il y a de quoi qui reste, on l'épargne. Et s'il y en a d'autres, s'il reste de quoi après ça, bien, on les donne. Typiquement, on est d'accord que c'est l'approche qui est prise par la plupart des gens. Donc, je vais vous donner quelques versets à propos de certains de ceux-là. Et ça va peut-être vous aider à repenser à ce qu'on fait avec nos sous. Parce que je pense que la Bible, elle a beaucoup à dire à propos des financiers. Les sages ont... Quelle catégorie vous êtes? Sage qui a beaucoup d'argent ou celui qui n'est pas sage qui dépense tout ce qu'il a? Voulez-vous être pas sage, vous voulez dépenser tout ce qui rentre. Ça, c'est évidemment pas une bonne chose à faire. Moi, j'aimerais avoir des richesses et de la richesse. Donc, En résultat de ça, je ne peux pas dépenser. Si je veux être sage, je ne peux pas dépenser tout ce qui rentre. Parce que ça, c'est pas sage faire ça. Ta façon de vivre détermine ta consommation. Donc, pense à ça. Et une chose que nous devons faire à propos des finances, et typiquement, ce qui se passe d'habitude, c'est que tu as une augmentation de salaire. Qu'est-ce qui se passe? Bien, ton style de vie est touché et tu augmentes ton style de vie. Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Et je penserais d'une façon biblique, c'est pas vraiment la chose à faire, mais ce qu'on devrait vraiment faire, c'est déterminer notre style de vie et vraiment décider, c'est ça, basé sur notre revenu, ça, c'est le style de vie que nous allons avoir. Donc, basé là-dessus, il y a un certain niveau de dépenses qu'on prend et on le limite à ça. Et tu ne changes pas ton style de vie. Donc, ça veut dire que alors que tu as des augmentations de salaire, il y en a qui reçoivent ça à tous les années. Il y en a d'autres, c'est bonus et il y a d'autres, des années meilleures années que d'autres. Alors, moi, j'ai des bonus, donc alors quand j'ai des bonus, j'ai une augmentation de salaire. Mais alors que le revenu augmente, bon, je pourrais acheter un moto ou je pourrais améliorer mon auto ou je pourrais peut-être avoir une meilleure maison. On a parlé de ça hier soir. Et changer d'où ce qu'on est, mais ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de changer notre style de vie et on est en train de consommer ce qu'on reçoit. Et ça, c'est pas une bonne idée selon cette sagesse qui vient du livre des Proverbes. Le contentement ou un manque de contentement est ce qui détermine ce que tu dépenses. Et quand on rentre dans le prochain niveau, votre niveau de dette, est-ce que tu devrais acheter un nouveau char ou un vieux char? Ouais, ça dépend de ce que tu peux te permettre. J'ai entendu quelqu'un donner une idée à propos d'acheter un véhicule. Tu devrais jamais t'endetter à propos d'un auto. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vendent des autos ici, mais savez-vous, s'il vous plaît, soyez pas offensés, parce que moi, je le prends de quelqu'un d'autre. C'est pas moi qui. Ça vient pas de moi. Je veux juste pas avoir de trouble ici. Ce qu'il dit, mettre de côté 400 pièces par mois. Ça, c'est une bonne leçon peut-être, même pour vos enfants, une idée. Quand ils commencent à travailler, mettez 400 $ de côté par mois. À la fin de l'année, vous avez 4800 $ et prenez-le et achetez un vieux char. Donc, maintenant, vous avez un 4800 $. Tu peux acheter un char assez pas pire pour 4800 pièces. Oui, vraiment, là. Mais continuez de mettre de côté le 400 $. Donc, l'année prochaine, si vous n'aimez pas, le taux, et l'année prochaine, vous avez un autre 4800 $, et parce que vous avez acheté un vieux char, il y a beaucoup de dépréciation qui est déjà partie, vous pouvez peut-être le vendre encore l'année prochaine et mélanger ça avec ce que vous avez mis de côté. Vous pouvez probablement acheter un char de 7 ou 8 000 et encore pas de paiement. Continuez de mettre votre 400 $ de côté par mois. Continuez de faire ça. Et continuez d'échanger cette auto aussi longtemps que vous voulez pour que jusqu'à temps que vous avez l'auto que vous voulez et vous n'avez pas de paiement. Le plus grand défi que les jeunes gens ont quand ils sortent de l'école, c'est de tomber dans la dette. Parce que, bon, vous avez un emploi. Bon, j'ai un emploi, j'ai besoin d'un auto. Ah, tu ne peux pas te le permettre. Tu ne peux pas... Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu empruntes. Tu empruntes de l'argent. Maintenant, tu as un paiement d'auto. Et ce qui est intéressant, que les institutions financières te permettent de faire, ils te permettent d'emprunter selon ton... Ils permettent que ton paiement soit 40% de ton revenu. Mais tu payes ça de quoi? Tu fais le paiement basé sur ton revenu net. Donc, les taxes doivent être enlevées avant. Ça veut dire qu'ils te donnent une possibilité de payer à propos de votre salaire sans déduction, mais vous devez payer après que les taxes soient enlevées. C'est de ça que vous devez payer votre dette. Et vite, ce qui arrive, c'est que nos jeunes, ils sont endettés. Il faut être contenter avec ce qu'on a. Et ça, c'est souvent un défi. Être contenté, c'est un grand défi. Parce que, je vais vous donner un exemple de ma fille. Elle voulait acheter un nouveau char. Et je lui ai dit, non, je ne veux pas que tu achètes un char. Ben pourquoi pas? Ma chum, elle a un nouveau char. Son ami avait un auto. Toutes les bases, parce qu'elle ne pouvait pas avoir ce qui est luxueux. J'ai dit, non, achète-toi un vieux char. Et il fait les paiements. Et je lui ai aidé. Je ne sais pas si j'aurais dit ou non. Elle a fait les paiements vers moi. Mais elle a payé. Mais après qu'elle avait l'auto, parce qu'elle avait un vieux char, climatisation, cruise control, toutes les options incluses, elle a dit, papa, je suis tellement contente. Parce qu'elle a réalisé que sa chum, elle avait un paiement pour 5 ou 6 ans sur son auto. Elle avait un paiement pour 2 ou 3 ans plus. Son auto avait plus d'options que sa chum. Donc, même si sa chum a acheté son auto neuf, quand elle avait pour un peu de temps, bien, il était usagé de toute façon, n'est-ce pas? Mais elle a pris une bonne leçon. Maintenant, elle achète des vieux chars. Mais c'est important qu'on enseigne à nos enfants, et puis même nous, ne pas s'endetter. Parce que quoi, la dette? La dette, c'est vraiment être... on a les cartes de crédit parce que la dette, c'est tellement facile. C'est tellement facile de tomber dans une dette. Ou ce que c'est difficile de sortir de ça. Et la dette, c'est un gros problème. Philippiens 4, c'est pas que je parle de... J'ai appris à être contentée. Ma fille, elle a appris d'être contentée d'un auto usagé versus un auto neuf. Mais financièrement, elle n'était pas en prix avec une dette aussi longtemps que sa chum. Puis, si elle voulait aller en quelque part, elle pouvait vendre son auto, payer la dette, parce qu'est-ce qui arrive avec des autos usagées? On sait qu'est-ce qui se passe avec un auto nu quand on l'achète. Immédiatement, il déprécie. Tu peux pas l'acheter le lendemain. Tu peux même pas le vendre le lendemain pour ce que tu as payé si tu achètes neuf. Tandis que tu peux faire beaucoup mieux quand tu achètes un auto usagé. Donc, on doit apprendre à être contenté. Il y a une obligation de repayer. Romains 14, verset 8. Proverbe 22, verset 8 dit, les riches, c'est quoi ça, un esclave? Parce que l'emprunteur devient l'esclave de celui qu'il y emprunte. Donc, être endetté, ça veut dire qu'on n'est plus libre, on devient un esclave. Donc, si tu étais appelé à aller, admettons, en mission, si tu avais beaucoup de dettes que tu peux pas vendre assez de propriétés pour payer cette dette, tu n'es pas libre à partir. Tu es un esclave. Donc, je pense que pour nos enfants, pour vous-même aussi, c'est important qu'on ne devienne pas esclave. Parce que Dieu nous a libérés. Pour la liberté qui nous a libérés. Donc, on ne devrait pas être un esclave de ça. Est-ce qu'on a des commentaires à propos de ça? Une question? Donc, la question est, je pense que acheter un auto, comment est-ce que quelqu'un peut acheter un auto en commençant? C'est quoi la première partie de votre question? Il y a un job, mais il a besoin de l'auto pour aller à son emploi. Donc, la question, c'est la personne a, une jeune personne a besoin d'un auto pour se rendre à l'ouvrage. Donc, en tant que parent, si tu n'as pas l'argent, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que c'est un grand défi pour ton enfant d'avoir du crédit ou un emprunt. C'est presque impossible. Parce qu'une chose que les institutions financières demanderaient un historique de paiement ou de historique d'emploi. Donc, souvent, c'est peut-être pas une bonne idée quand je pense. Je viens de faire mon training de financier, conseiller des finances chrétiens. Puis, une chose qu'on veut enseigner à nos enfants, c'est essayons de leur aider à se tenir d'eux-mêmes. Fait que j'hésite même à lui dire que je te donne de l'argent et que les autres, ils achètent l'auto. Bien, dans le fond, moi, j'achète l'auto, puis les autres, ils me repayent. Et ça, c'est bon parce que ça leur démontre la leçon que, bon, tu peux pas juste emprunter, tu as une obligation maintenant à repayer. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné à ma fille et c'est peut-être la seule façon qu'elle a d'avoir son auto, mais d'une façon ou d'une autre, il faut qu'ils établissent le crédit et leur crédit. Une chose que j'ai appris en faisant ça, c'est probablement leur pourvoir un carte de crédit pour commencer. Et ça, c'est pas nécessairement... Ça, c'est un conseil pratique plutôt qu'un un conseil biblique. Parce que on parle de dette, je pense que c'est important d'éviter la dette le plus possible. Mais la réalité de ce monde, c'est que souvent, afin qu'ils puissent avoir un certain crédit, ils sont forcés à emprunter. Donc, j'ai dit à ma fille d'aller chercher une carte de crédit, puis je pense qu'elle avait 1 000 $ de limite sur sa carte de crédit. Mais je l'ai faite afin qu'elle puisse établir son historique de crédit. Une chose que j'ai appris juste la semaine passée, c'est qu'en payant cette carte à tous les mois, ce qui est le meilleur avis que je peux vous dire de faire, ça n'établit pas ton crédit. Absolument pas, parce que pour les buts de la banque, c'est exactement comme si tu dépensais du cash. Parce que tout ce que tu fais, c'est que tu mets de quoi sur la carte, puis à la fin du mois, tu le payes. Donc, ça démontre que tu es capable d'utiliser de l'argent, mais ça démontre pas que tu es capable d'emprunter de l'argent et de le répéter. C'est un petit peu fou, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, longue histoire, pour établir du crédit, ce que tu dois faire, c'est garder une balance sur la carte et le payer d'une façon graduelle. Et ça démontre que, bon, tu es responsable et que tu fais les paiements sur la carte. Donc, ça l'établit ton crédit. Mais, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question d'une façon, mais ils doivent trouver la meilleure façon de le faire, c'est qu'ils mettent de côté, alors qu'ils sont à la maison avec vous, de mettre de l'argent de côté pour qu'éventuellement ils puissent payer cash pour leur auto. Ça serait ma recommandation. C'est vrai, c'est un bon commentaire et je vais juste répéter pour... Je devrais avoir un micro parce que moi, je ne peux pas répéter tout ce que vous dites, vous savez ça. Mais en essence, nous pouvons devenir... C'est plus important pour nos enfants d'être esclaves à nous, envers nous, que d'être des esclaves envers des institutions financières. Et ça, je pense que c'est un bon commentaire. Mais la seule chose que je vais dire, c'est que il y a un danger avec notre relation avec nos enfants si on leur en passe de l'argent, parce que qu'est-ce qui arrive s'ils ne nous repayent pas? S'ils ne nous repayent pas, s'ils ne remboursent pas leurs dettes envers nous, OK, ma fille, elle a, moi, je pense, ma fille, elle a besoin d'un auto, je peux lui fournir l'auto, mais ça veut dire que je fais partie de cette édition. En passant, ce verset, qu'est-ce qui vient de avant Proverbe 22, 7? Il ne dit pas verset 6. Qu'est-ce que Proverbe 22, 6 dit? Y a-t-il quelqu'un qui le sait? Je vais vous le dire. Élever un enfant dans la façon qu'il doit aller, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je trouve ça très intéressant que ce verset est tout de suite après celui-là. Et assez dit, parce que ça veut peut-être dire qu'il y a une liste de proverbes, mais je trouve ça intéressant que ce verset de devenir un esclave à l'emprunteur vient tout de suite après élever votre enfant. Donc, moi, je regarde ça, puis qu'une partie de l'éducation de nos enfants, c'est dans nos finances, dans même la dette. Mais c'est vrai que c'est mieux que notre enfant soit un esclave à moi, mais en même temps, quand vous faites ça, il y a un certain danger dans la relation, parce que qu'est-ce qui arrive s'il ne paye pas? Dans ma tête à moi, quand je fais ça pour ma fille, c'est comme si l'argent est parti. Donc, s'il y a une incapacité à ma fille de repayer sa dette, je porte le fardeau et c'est comme si je lui ai donné l'argent. Je lui ai déjà tout pardonné. Et ça, c'est la différence entre nous, en tant que parents. Nous ne gardons pas nos enfants. Nous les gardons à rendre des comptes, mais pas aussi sévèrement que les banques. Et ça, je pense que c'est une bonne chose, si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que ils n'établissent pas de mauvaise crédit. S'ils manquent envers nous, ça veut dire qu'ils ne sont pas assez responsables d'avoir cette dette. Et ils ont besoin de payer les conséquences. Mais comment est-ce que tu vas renforcer ça en tant que parent et ne pas affecter ta relation? Ça, c'est mon point. Et je pense que le défi que tu rentres quand tu aides ton enfant, parce qu'ils ont besoin d'apprendre de se tenir debout tout seul. Et ça devient un petit peu un défi pour nous en tant que parents. Jusqu'à temps, quand qu'on peut les aider et à quel moment est-ce que notre aide ne fait pas du tort envers eux? Et aussi, on doit se souvenir qu'ils doivent se fier sur le Seigneur pour leurs besoins et pas se fier sur papa, n'est-ce pas? Donc, tout mettre ça dans la balance et chercher la voie du Seigneur dans ça, parce que c'est définitivement un endroit qui a besoin d'être exploré et ils ont besoin de comprendre. Ils ont absolument besoin de comprendre. Et il n'y a rien de mal, dans mon opinion, c'est ce que j'ai fait avec ma fille. Je veux dire, voici l'intérêt. Voici, tu payes ton auto. Voici ce que ça va avoir de l'air. Et ça leur donne une idée. Et moi, je ne sais pas si une banque regarderait ça éventuellement, mais moi, ce que j'ai utilisé, la carte de crédit pour établir ce petit crédit pour ma fille, mais ça n'a pas marché. Elle a fait ce que moi je recommanderais à n'importe qui, utiliser comme du cash, ce que tu mets dessus, tu le payes à la fin du mois. Donc, il y a 3 ans qu'elle a sa carte et je pensais qu'elle établissait son crédit, mais elle n'a rien après 3 ans parce qu'elle fait juste payer sa carte à tous les mois. Donc, gardez toujours une balance, mettez 500$ et tu le payes 50$ par mois et jusqu'à temps que c'est payé. Ça démontre les institutions financières et ça apparaît sur le crédit. Et j'avais pas l'intention de parler de ça aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est arrivé dernièrement. Donc, payez nos taxes. Je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Montrez-moi le sou qui est utilisé pour les taxes. Quelle image est étampée dessus? César, ils ont répondu. Donc, Jésus a dit, donnez à César ce qui appartient à César et donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et je pense qu'il est important ici c'est d'apprendre que, oui, on a besoin d'être équitable dans nos taxes et de faire la bonne chose, mais en même temps, on a besoin de donner à Dieu ce qui est à Dieu. Et si on fait ça, ça veut dire qu'on donne 100% à Dieu, littéralement, parce que Dieu a tout. On a parlé de ça. Dieu, tout appartient à Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu donne 100% à nous pour déterminer qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça. Et il s'attend à ce qu'on soit responsable avec ça. Moi, je dirais de le garder, de l'épargner. Et quand tu as de l'argent rapidement, ça part rapidement, mais celui qui met de côté tranquillement le garde. On a besoin d'enseigner ça à nos parents dans les Écritures. Si tu mets de côté petit par petit, c'est comme ça que tu vas avoir ce que tu veux. C'est de prendre ton temps. Et c'est pour ça que quand on peut mettre l'argent de côté pour un auto ou pour quelque chose, mettez-le de côté tranquillement et enseignez ça. 1 Corinthiens, au début de la journée de chaque semaine, tu devrais mettre de côté une portion de l'argent que tu as gagné. Maintenant, cette référence, ça parle du dîme, donc il faut le voir dans son contexte, mais certainement, ça veut dire mettre de côté une portion de l'argent qui est... Et dans Proverbe 6, vous regardez l'exemple. Va vers le fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Donc, ils mettent de côté l'argent. Donc, ça nous enseigne que nous devons apprendre à mettre de côté. Puis, on a besoin d'enseigner à nos enfants aussi. Dernière chose, c'est de donner. Et typiquement, les gens... La première chose, quand on reçoit notre paye, on va le dépenser. Ensuite, on paye notre dette et les taxes sont déjà parties. S'il y a de quoi qui reste, on l'épargne. Puis s'il y a de quoi qui reste, après ça, on le donne. Intéressant, un verset intéressant, Luc 21. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Intéressant que Jésus est en train de regarder l'offrande. Et il a vu aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Intéressant parce qu'évidemment, Jésus n'est pas en train de regarder combien est-ce que le sou vaut, mais il explique. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc, quel pourcentage que chacun a donné? Bien, la veuve, elle a donné 100%, elle a donné tout ce qu'elle avait. Les autres ont donné de leur surplus. Donc, qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce qu'on donne? Parce que typiquement, si on suit ce pattern de, bon, on dépense, dette, ensuite taxe, ensuite, donner, ça vient à la fin. Donc, on donne de ce qui reste. Mais si vous regardez le principe biblique, donner devrait pas venir de ce qui reste. Ce qui reste est normalement pour vous, non? Quand on regarde les restants dans notre marché, maison, quand que vous recevez une invité, est-ce que vous lui redonnez des restants? Pas normalement, vous préparez un repas. Si vous êtes en train d'user, d'hospitaliser, vous préparez un repas et vous leur donnez. Et maintenant, les restants, bien. Si vous êtes un invité dans ma maison, moi, je mange les restants. Donc, pourquoi nous, souvent, on donne des restants? Donc, ne donnons pas de notre restant, mais plutôt, changeons ça pour tout arranger. Renversons l'ordre. Winston Churchill, il a dit, nous faisons une vie parce que nous recevons, mais nous donnons une vie parce que nous donnons. Et si vous considérez ma session ce matin, beaucoup de ce que j'ai parlé, c'est de comment on peut vivre. Et quand que je travaillais en tant que financier, un planificateur financier, c'est comment que je pouvais supporter ma famille. Mais Dieu, ce qu'il voulait, c'est que j'allais faire toute ma vie autour de ça. Et le Seigneur devait m'emmener à un endroit où c'était moi qui donnais, dans mon emploi. Et ce que je fais dans mon emploi maintenant est complètement différent parce que ma perspective a complètement changé. Je suis encore dans le même bureau. Je fais toujours la même sorte de travail, mais c'est plutôt donner plutôt que de le faire pour de l'argent. Donc, la première chose, quand on change notre façon de penser, la première chose qu'on fait, c'est de donner. Ensuite, on va mettre de côté. Ensuite, on paye les taxes. Ensuite, les dettes. Et ensuite, s'il y a de quoi, tu vas le dépenser. Est-ce qu'on peut vivre de cette façon? Oui, c'est possible. C'est possible. Maintenant, ce qui est intéressant, si tu donnes en premier, qu'est-ce qui arrive au Canada? Si tu donnes à une charité, tu vas recevoir tu peux l'utiliser contre tes taxes. Et si tu mets de côté, donc si tu mets de l'argent dans un REER, tu vas aussi recevoir un reçu à la fin de l'année pour ce que tu as contribué. Tout ce qui est mis de côté dans tes fonds de pension, tu vas recevoir un reçu pour des types d'impôts. Donc, si tu fais ces deux choses-là en premier, ça va toucher les taxes que tu vas éventuellement payer. Donc, n'est-ce pas nécessaire de faire ça en premier pour que tu puisses structurer et dire, OK, je vais prendre un pourcentage de mon revenu et je vais le donner. Je vais le donner en premier. Et deuxièmement, bien, je vais mettre de côté. Je vais épargner pour ma retraite, pour l'éducation de mes enfants. Et je pense que c'est la prochaine session aujourd'hui. Et je vais mettre de côté pour un auto pour que je n'ai pas besoin de m'endetter. Donc, si nous renversons et le mettons dans le bon ordre, les choses vont fonctionner mieux. Mais si on veut faire ça, on a besoin d'avoir ce qu'on a parlé avant, c'est le contentement, et on a besoin d'avoir un style de vie qui est contrôlé. Et je pense que quand on regarde autour et on voit beaucoup de gens, ils ont besoin, ils ont un style de vie qui est hors de contrôle et il n'y a pas de contentement. Et ils vivent basé pas sur ce qu'ils peuvent se permettre quand c'est leur sous, mais plutôt qu'est-ce qu'ils peuvent se permettre en tant que dette mensuelle. Et cette jeune génération sont coupables de ça. Et les gens qui passent de l'argent, ils vivent là-dessus. Quand j'ai commencé à intéresser à acheter des autos, tu l'achetais pour un certain prix. Et c'était quoi? 15 000, 20 000. Et tu négociais l'argent et tes prix mensuels venaient par rapport à ça. Mais maintenant, c'est quoi la mode? Ça pas rapport avec la valeur du véhicule. C'est le paiement mensuel ou le bimensuel ou le hebdomadaire. Le paiement hebdomadaire, 50$ par semaine, ben, je suis capable de faire ça. Ben, tu as 52 semaines par année. Il faut que tu le multiplies par 52 divisé par 12. Est-ce que tu es vraiment capable de te permettre ça? Mais c'est la façon que c'est vendu. C'est basé sur le paiement mensuel et pas sur ce que tu vas dépenser sur ta vie. Et on parle des dettes de 7 à 8 ans sur un véhicule. Oh, je ne parlerai pas de ça. Mais vous voyez que ça a du sens de renverser ça, de le mettre dans le bon ordre. Une autre chose que c'est ce que ça fait, c'est que ça invite Dieu dans tes finances. Parce que quand tu mets tes finances dans le bon ordre et tu fais la bonne chose, bien, si tu suis les principes bibliques, tu invites Dieu d'être faire partie de tes finances. Donc, ça veut dire que quand tu vas être dans des problèmes financiers, tu peux appeler sur le Seigneur et il va te répondre. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Et je crois que c'est la seule place dans l'Écriture que Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai Celui qui dévore. Donc, ça veut dire que si tu mets en ordre tes finances, je vais bénir ton entreprise, tes entreprises. Et il ne vous dit. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donc, quand je regarde ce verset, ce que c'est en train de dire, c'est quand tu évites Dieu dans tes finances, ça veut dire quand il y a des difficultés, quand il y a une crise économique, tu vas être correct, parce que c'est pas juste toi puis ton boss et tes dépenses, ta dépendance sur ton emploi pour ton revenu, c'est ta relation avec Dieu. Tu as mis en ordre tes finances pour que Dieu soit fasse partie de tes finances. Et je me souviens d'une histoire d'un bûcheron. Et il croyait dans le Seigneur et il croyait dans ce principe. Et il avait tout son bois qui était dans le bois. Et il y a un feu qui est venu. Un feu qui est venu, vous savez ce que un feu fait au bois. Il a cru, ça va tout le détruire. Donc, le feu est venu et a détruit la forêt. Et je me souviens, quand j'étais un adolescent, il a prié. Et je me souviens dans l'église, il a dit, « Seigneur, tu m'as donné ça à moi. Et Seigneur, je prie que tu puisses protéger ce récolte. » C'est comme il a dit. Et savez-vous quoi? Ils sont entrés dans le bois et tout était complètement détruit et son bois était là, dans le bois, dans la pile, et il a reçu paiement pour son bois. Moi, je pense que c'est de ça qu'on parle, une provision supernaturelle dans un temps de crise où ce que les emplois peuvent être perdus et le vôtre est maintenu ou miraculeusement, vous avez un autre job. Ça, c'est les choses, c'est supernaturellement. C'est l'implication de Dieu dans notre monde. C'est ce qui se passe quand nous mettons en ordre nos finances. Est-ce que tu as un compte? Et je vais finir avec ça. Paul a dit ça et c'est quelque chose d'intéressant. Et je vais vous amener à un verset que vous devriez mettre sur votre frigidaire et que vous réclamez tout le temps. Si vous connaissez Philippiens 4, verset 19, vous savez de ce que je parle. Mais Paul dit ça pour vous donner un contexte. Vous fûtes les seuls à les faire, car vous m'envoyez déjà de pouvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. N'est-ce pas intéressant? Parce que Paul dit, tu as investi dans mon ministère quand personne d'autre l'a fait, si vous lisez bien. Et c'est pas que je suis important, je suis intéressée dans ce que vous me donnez, mais je suis intéressée dans ce qui s'est passé en résultat de ce que vous avez fait. Parce que le résultat, c'est qu'il y a un compte qui est créé. Et ça, en passant, c'est un compte que je crois qui est éternel. C'est un compte au ciel. Et le Seigneur bénit ce compte par nos dons vers les charité ou à lui, dans le fond. Mais je vais vous dire, dans les charités, à cause de notre contexte. Et verset 18 dit, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Donc, ce que Paul dit, c'est le don, le cadeau que vous avez donné, Dieu l'a vu. Et vous êtes votre don a augmenté votre compte éternel et a pourvu un sacrifice. Donc, c'est une offrande vers Dieu et c'était agréable et acceptable vers Dieu. Qui est-ce qui a coté ce verset? Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Maintenant, si vous regardez le contexte, le fait que Dieu pourvoit à nos besoins, c'est basé sur le fait que tu as un compte. Maintenant, moi, je travaille dans une union de crédit. Vous travaillez ou bien avec la banque ou une union de crédit. Si vous rentrez dans une branche qui n'est pas normalement où ce que vous faites vos transactions monétaires, admettons que vous avez besoin d'acheter quelque chose dans cette institution financière, qu'est-ce qu'ils vont vous demander pour commencer? Avez-vous un compte ici? Non, j'ai votre compte ici, mais j'en ai un compte à cette branche. Pourquoi c'est important que vous ayez un compte? C'est important que vous ayez un compte. Bien, premièrement, ils peuvent prendre l'argent de ce compte-là, ils peuvent faire des transactions et il y a des bénéfices d'avoir un compte à une certaine institution parce que basé sur le niveau d'administration, les frais d'administration que vous payez, il y a certaines choses qui sont couvertes si vous avez un compte. Maintenant, moi, je regarde ce verset et dans ce contexte, et je pense c'est un bénéfice pour nous d'avoir un compte parce que Dieu pourvoit que Dieu, si Dieu pourvoit à tous mes besoins, c'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui ont un compte. Et si tu as un compte et tu as payé dans le compte éternel, tu as été généreux envers le travail du royaume, donc ton compte est ouvert, il est bien. Et, remarquez le « et ». Et pour ceux qui font l'école maison, c'est ce que vous faites ici. Et normalement, ça parle de quelque chose qui est avant. Donc, quand il dit « et mon Dieu va pourvoir à mes besoins », on est en train de lier à ce qui est dit avant. Et ce qui est dit avant, c'est que c'est important que tu aies un compte qui augmente. Donc, quand tu as un compte qui augmente, ton Dieu va pouvoir à tous tes besoins. Donc, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ce qui se passe dans l'économie, à ta job, c'est pas si important, car où sont tes besoins? Sont en Dieu et pas nécessairement dans ton emploi. Et il va pouvoir à tes besoins parce que ces gens ont été généreux envers Paul, ont donné à leur ministère. C'est dans le fond, c'est ça. Et Paul dit, je suis heureux de ça. Moi, je cherche pour vous qui m'a donné un cadeau, le profit qui augmente à votre compte. Donc, un dernier verset, c'est important à jamais. Ce que vous faites pour votre argent, c'est important dans le temps de Jésus et de Jean-Baptiste. Et c'est important aujourd'hui ce qu'on fait avec nos sous parce que le résultat de ça, c'est qu'on est bien libre ou on ne l'est pas. Et le dernier, c'est que c'est important à jamais parce que notre compte, c'est un compte éternel. Et 1 Timothée, ce passage, enseignez à ceux qui sont riches dans ce monde. Et en passant, tout le monde qui sont ici, je pense que vous êtes riches dans ce monde. Quand vous comparez d'autres personnes dans ce monde, nous sommes tous riches. Nous sommes tous riches. Nous avons une maison, je pense que la plupart de nous ont une maison. On a probablement des chambres dans notre maison que personne n'utilise. Dans ma maison, il y a des chambres qui personne dort dedans, personne n'utilise. Je suis riche. Nous sommes riches dans ce monde. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses éternelles. Parce que quand on a de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On transfère notre confiance en Dieu à ça. Et qu'est-ce qui compétitionne pour notre cœur? Jésus l'a dit. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Ou bien tu sers Dieu ou tu sers l'argent. Et moi, j'aurais pensé que ce serait Dieu ou le diable. Non. C'est Dieu ou c'est l'argent. De ne pas être orgueillé et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la liberté, de la générosité et de s'avancer ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Donc, qu'est-ce qu'on parle ici? C'est de placer notre trésor placé sur un fondement solide. Donc, ce que vous faites quand vous retournez aux 5 choses que vous pouvez faire pour l'argent, dépenser, c'est pour qui? C'est sur nous. S'endetter, c'est aussi pour nous. Payer les taxes, bien, ça, c'est à propos des autres. Parce que ça, c'est ton capital social. Parce qu'on paye pour les bénéfices sociaux que les autres les autres utilisent aussi. puis mettre de côté, c'est pour nous aussi, épargner pour notre retraite, pour nos enfants, c'est pour nous. Donc, la seule deux choses de quelque, à propos de quelqu'un d'autre, c'est le donner et les payer les taxes. Et en réalité, si vous comprenez ce que ce verset dit, ce don-là, c'est aussi à propos de nous autres. Parce que savez-vous ce que Jésus dit? Mettez-vous de côté pour vous de côté des trésors dans les cieux. Donc, ce que vous faites pour l'éternité, c'est aussi bénéfique pour vous. Parce que souvent, on saute ce verset puis on dit mettre des choses de côté au ciel. Mais ce que Jésus dit, c'est que vous mettez des trésors pour vous au ciel. Donc, les argent, c'est important. C'est important il y a longtemps, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Moi, j'ai fini. Y a-t-il des commentaires, des questions? Merci beaucoup. Et que le Seigneur vous bénisse.